La carte blanche, Africa Radio.
Et avant de retrouver notre invité carte blanche, je vous rappelle que nous parlerons ce soir de la rencontre mardi entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Cette rencontre a-t-elle tenu toutes ses promesses? Nous en débattrons donc avec nos invités. Et notre invité carte blanche cette semaine est Antoine Kabouraé. Bonsoir, monsieur Kabouraé.
Oui, bonjour.
Journaliste burundais en exil en Belgique, fondateur du groupe de presse Iwachu et auteur notamment de Outils, Au nom de tous les sangs ou encore Faut pas prendre les cons pour des gens. Premier sujet que vous avez choisi, Antoine, c'est la Tanzanie où la présidente par intérim, Samia Suluhu Hassan, a été vaccinée cette semaine et devant les caméras.
Oui, ça peut paraître banal. L'image est une image commune où on voit des hommes politiques, des chefs d'État se faire vacciner. Sauf qu'en Tanzanie, c'est quand même un revirement, un grand revirement, parce que dans ce pays, son prédécesseur, John Magufuli, avait toujours minimisé la pandémie.
Certains parlaient vraiment... même de déni carrément de cette pandémie.
Exactement. C'est un pays où il n'y avait pas de gestes barrières et surtout pas de vaccins. Donc, ce qui s'est passé cette semaine, c'est vraiment un tournant dans la lutte contre la pandémie. En fait, il y a une reconnaissance. Et je trouve que c'est vraiment un pas dans la bonne direction.
D'après vous, ça va susciter peut-être un engouement au niveau des populations quand on sait que sur le continent, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour ces vaccins contre le Covid-19.
Oui, exactement. Même dans mon pays, le Burundi, on peut dire que là aussi, les gestes barrières ne sont pas vraiment respectés. Les fêtes se tiennent normalement, les matchs de football, les églises sont pleines les dimanches. Là aussi, je pense que le geste de la présidente tanzanienne va, enfin, j'espère bien, susciter aussi des vocations, si je peux dire ainsi.
Deuxième sujet, c'est le Sénégal. On va rester en santé avec la saturation des hôpitaux à cause de la flambée des cas de Covid-19, Antoine.
Bon, pourquoi cela m'interpelle? C'est parce que tous les spécialistes aujourd'hui, tous les observateurs spécialisés dans les questions de santé, craignent vraiment que la pandémie s'accélère. Et ce qui se passe au Sénégal, qui est quand même un pays avec un système de santé, disons, correct, dans ce pays, selon les médias locaux, aujourd'hui, c'est saturé. C'est saturé et pourtant, c'est un pays jusque-là qui dispose de beaucoup de médecins bien formés. Et là-bas, vraiment, il y a une peur panique de ce qui pourrait se passer, notamment avec ce fameux Delta. Donc,
le variant.
Ça m'interpelle. Oui, le variant, oui. Donc, ça m'interpelle beaucoup. C'est pourquoi ces deux sujets, la Tanzanie et le Sénégal, vraiment, cette semaine, m'ont beaucoup parlé.
Dernier sujet, Antoine Kabouraé, c'est bien le sport avec les Jeux olympiques de Tokyo. On a observé cette défaite du double médaillé olympique Teddy Riner, le judoka français, battu en quart de finale. Mais il n'a pas été démobilisé puisqu'il a arraché quand même une médaille de bronze.
Oui, c'est ça. Mais bon... Je disais que je voulais terminer cette carte blanche avec une note plus légère, mais c'est vraiment du lourd. Mmh. Quand Teddy Riner tombe, c'est vraiment du lourd. Ouais. Il a raté sa troisième médaille et la tristesse est grande pour tous ses supporters, profondément attristés.
Vous en faites partie, j'imagine.
Oui. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, très simple. Vraiment, c'est quelqu'un d'inspirant. Mais d'après les journalistes spécialisés, il semblerait que il n'était pas vraiment au mieux de sa forme et qu'il n'a pas eu beaucoup de compétitions, notamment suite à une blessure il y a quelques mois. Alors, je dirais tout simplement qu'à un moment donné, La leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il faut à un moment donné savoir raccrocher à temps. Et peut-être. Il
aurait mais vous n'êtes pas en train de demander à Teddy Riner de décrocher alors qu'il pourrait prendre sa revanche aux prochains Jeux Olympiques ici à Paris.
Bon, espérons. Mais justement, s'il n'a pas cette médaille, souvent, surtout les supporters, on garde la dernière image et ce serait le bronze ou l'argent, alors que peut-être en partant sur l'or, c'est encore plus romantique.
D'accord, qui n'est pas le même destin peut-être qu'un certain Usain Bolt qui a finalement décroché avec sans médaille. Merci Antoine Cabroyer, journaliste burundais en exil en Belgique et fondateur du groupe de presse Iwachu en Belgique. Vous étiez en ligne de Bruxelles. Merci à vous.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Rencontre dite historique entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Mardi, les deux hommes se sont rencontrés au palais présidentiel et c'est tout sourire qu'ils se sont présentés devant les caméras. Le sourire affiché devant donc les caméras par le président Ouattara et son ancien challenger et ennemi politique, Laurent Gbagbo, amorce-t-il une vraie réconciliation? La rencontre de mardi a-t-elle tenu toutes ses promesses? Nous en débattons ce soir dans votre émission avec trois invités. Docteur Sylvain Guessant, bonsoir.
Bonsoir madame.
Analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Et avec nous également Alain Goury, secrétaire national du CAP, cellule des agences du privé du FPI Ngor. Monsieur Goury, bonsoir.
Bonsoir madame.
Bienvenue à vous Moïse Diallo.
Bonsoir madame.
Merci. Vous êtes conseiller spécial de la délégation RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire et vous êtes à Paris. Je vais commencer avec vous, docteur Nguessant. Est-ce que vous, personnellement, vous aviez anticipé sur ces images auxquelles nous avons assisté mardi, à l'arrivée comme à la sortie des entretiens entre les deux hommes? On a vu des sourires très larges d'ailleurs. Alors qu'ils se sont rencontrés dans un contexte politique qui était un peu tendu, des piques lancées par Laurent Gbagbo à l'issue de sa rencontre avec Bédier, piques auxquelles a répondu de manière virulente le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo.
C'est l'élément quand même qui laissait entrevoir que le compromis politique était la meilleure option pour les deux leaders politiques. Le président Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles, avait laissé entendre qu'il venait pour peser de tout son poids dans la recherche de la réconciliation nationale. Le président Alassane Ouattara a dit dédier son troisième mandat à la réconciliation nationale. Dans un tel contexte, la meilleure option qui restait aux deux hommes, c'était cette rencontre-là, en vue de rechercher le compromis politique pour jeter les bases d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire stable. Une Côte d'Ivoire qui tire des leçons de son douloureux passé en essayant de jeter les bases d'un futur commun, un projet d'avenir commun. Donc, par-delà les jeux de mots, les jeux de rôle, Laurent Gbagbo qui avait à mobiliser ses éléments depuis son absence, qui avait à remotiver, qui avait à tenir des discours qui devaient calmer le cœur et l'esprit des militants de l'opposition. Si vous vous rappelez bien, le discours le plus virulent du président Laurent Gbagbo a été tenu à Daoukro, où le jeune militant de l'opposition a été décapité par d'autres bandes. On attend les résultats de l'enquête jusque-là. Donc, face à ce genre de militants, le président Laurent Gbagbo ne pouvait que tenir le discours qui puisse les apaiser. Sinon, par-delà tout, les présidents Bédier, Gbagbo et Ouattara savent que la seule option qui leur reste, c'est de retrouver le compromis politique entre les trois en vue du dialogue politique pour la réconciliation nationale.
Et vous, Moïse Diallo, est-ce que vous vous attendiez à cette chaleur qui a caractérisé leur rencontre ou avez-vous été un peu dérouté par leur attitude respective?
Madame, franchement, on était tous sous l'effet de l'émotion. Je pense que ce n'est pas qu'on s'y attendait ou pas, mais la Côte d'Ivoire, tout le monde rêvait de voir cette image-là.
Mais chacun se demandait comment les deux vont réagir et la façon.
Oui, mais on savait que des frères, après tant d'années, qui avaient déjà annoncé effectivement cette rencontre-là, c'était une rencontre déjà qui, en nous, suscitait beaucoup d'émoi. Bon, donc on se demandait comment est-ce que ça allait être organisé. C'était plutôt l'organisation de la rencontre. Mais sinon, l'annonce déjà de cette rencontre suscitait beaucoup, effectivement, d'émotions en nous. On s'est dit vivement, vraiment, que cette rencontre ait lieu. Donc après, nous avons vécu ça en direct. Mais je peux vous assurer que nous étions tous dans nos différentes familles politiques à dire vraiment, il faut que cette rencontre se passe bien.
Donc, pour vous, tout s'est passé comme vous le souhaitiez, comme vous l'aviez prévu, détente, sourire.
Oui, parce que effectivement, nous savions
fraternité,
que...
Fraternité, c'est comme si il s'était manqué un peu.
Oui, il s'était manqué et donc on attendait tous, effectivement, à l'image aussi de nos frères Gore et nous-mêmes qui étions effectivement en train de faire la promotion de nos partis. C'est vrai que tous, on attendait, on s'est dit, ben, ils sont d'accord de se rencontrer. C'était déjà formidable. Donc, on échangeait tous, vraiment fraternellement. Et ils sont arrivés, ils ont confirmé effectivement cette fraternité dans laquelle nous étions déjà engagés. Ils n'avaient même pas le choix parce qu'ils savaient que de part et d'autre, dans leur QG, tout le monde attendait effectivement cette rencontre.
Merci.
Maintenant, il fallait bien l'organiser et il fallait qu'on s'accroche tous à ces mots, ces petites prises de parole, ces phrases, qu'on puisse effectivement peser ces phrases pour voir ce qu'il y a réellement dedans. Donc franchement, c'était une joie que nous attendions.
Merci.
Donc personne ne pouvait effectivement penser que ça se passe autrement. Voilà.
Monsieur Goury, est-ce que cette image de fraternité affichée est juste une stratégie de communication pour les deux hommes, pour... rassurer les Ivoiriens qui espéraient beaucoup de cette rencontre.
Effectivement, ces deux hommes le savaient très bien. Les Ivoiriens avaient vraiment besoin de cette rencontre. Parce que nous le savons, c'est les deux belligérants de la crise post-électorale. Et aujourd'hui, ils ont décidé de se rencontrer. Donc, effectivement, les Ivoiriens attendaient beaucoup de cette rencontre. Et ça a été vraiment... Ça a apaisé les Ivoiriens. Chacun dans son temps. Nous étions tous contents parce que nous avons vu nos deux belligérants, bras dans bras, en train de sourire aux Ivoiriens.
Oui, mais est-ce que c'est pour juste les images, pour assurer justement et aller dans le sens de cette attente très forte, ou faut-il s'attendre à ce qu'il y ait, que la suite de la procédure ou du rapprochement confirme ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté mardi?
Bon, nous pouvons le dire, la rencontre de Laurent Gbagbo et M. Ouattara, c'est un signal fort de la réconciliation. Parce que ce sont effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les deux belligérants d'hier qui ont décidé de s'asseoir et de se parler. Donc nous, c'est des grandes personnes, c'est des présidents, l'actuel président, l'ex-président. Ils connaissent effectivement le besoin des Ivoiriens. Ils ne peuvent pas venir devant nous pour nous berner par leur sourire. Ils veulent aller véritablement à la réconciliation. Et nous savons que Laurent Gbagbo, depuis la Belgique, il venait pour peser de tout son poids. Pour que effectivement les
Le docteur Guessant le disait. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Guessant, donc vous êtes optimiste quant à la suite de cette rencontre, que cela ira dans le sens de ce qu'on a vu mardi, c'est-à-dire un vrai rapprochement?
Bon, je reste prudent. Je reste prudent, il y a deux choses. D'abord, le président Laurent Gbagbo, en se déplaçant à la présidence, reconnaît le mandat du président Alassane Ouattara. La balle est dans le camp du président Alassane Ouattara maintenant, à qui le président Laurent Gbagbo a émis le vœu de voir fournir des efforts en tant que président de la République pour faire libérer les prisonniers politiques et aussi les officiers de l'armée qui ont été arrêtés à la suite de la crise de 2011 et aussi de 2020. Donc aujourd'hui, je reste prudent parce que la balle est dans le camp du président Alassane Ouattara. Est-ce que le 6 août, il va profiter de son discours à la nation ou une loi d'amnistie générale qui va permettre à ces personnes de bénéficier de la liberté. En ce moment-là, on sera vraiment engagé dans le processus de réconciliation. Sinon, si rien n'est fait après cette rencontre et que des gens qui sont en prison sans jugement depuis 2011 demeurent en prison, vous comprenez qu'on nous aura berné pour une photo ou alors au nom de la note de l'agence de notation Fitch, il fallait faire avec pour faire croire aux décideurs internationaux, aux acteurs internationaux que
tout va bien. Mise.
Voilà, deuxième élément, la réconciliation de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le simple discours de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, fut-il des ex-présidents. Quand Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sourient, la veuve d'Anou Kouakouté, la veuve de Sakassou, la veuve de Kiglo, de Diokoué, de Man, de Bangolo, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle qui a perdu son mari, son époux, elle gagne rien. Il faut repartir vers ces victimes-là, leur demander pardon et aussi que l'État leur apporte réparation.
Merci, Dr Nguessan. On vous laissera poursuivre dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission, ce soir, nous analysons les suites de la rencontre mardi dernier à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Et c'est avec trois invités, Moïse Diallo, conseiller spécial de la délégation RHDP à Paris, Alain Goury, secrétaire national du CAP, c'est la cellule des agents du privé du FPI Ngor de Laurent Gbagbo, et Sylvain Nguessan, docteur Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Alors, Dr Nguessan, je vous laisse terminer votre analyse et vous disiez que la réconciliation n'est pas seulement le sourire affiché des deux hommes qu'on a vus mardi dernier.
C'est ça. Il faudra que l'État apporte réparation aux victimes de la crise post-électorale et de toute la crise d'ailleurs. Fut-elle symbolique, il faudra que les hommes politiques reconnaissent leur demande pardon à la nation, aux victimes de ces crises-là, de sorte à ce que leur cœur soit apaisé. Sinon, s'il s'agit de donner seulement la rente viagère de Laurent Gbagbo, en quoi cela soulage la veuve de Diglo, de Banane, de Diokoué, j'en passe. Non, la réconciliation n'est pas une simple affaire de sourire entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. C'est une affaire aussi d'approcher les victimes de cette crise, de leur demander pardon et de leur apporter assistance et réparation.
D'autant plus qu'on a écouté le président d'une des associations des victimes qui semblait en substance dire que cette rencontre était en quelque sorte une façon de se moquer des victimes.
Non, lui aussi l'en fait un peu trop. Ce n'est pas une affaire de se moquer des victimes. De toute façon, s'il doit avoir réparation, ça sera par la signature de M. Alassane Ouattara qui est le président de la République. Et M. Alassane Ouattara n'ira pas jusqu'à un certain niveau s'il n'est pas mis en confiance par ses opposants directs qui sont Laurent Gbagbo et Harry Conan Bédié. Il faut d'abord que le dialogue soit amorcé entre ces trois leaders, que la confiance soit remise entre les trois. À partir de ce moment-là, M. Alassane Ouattara, qui a la signature, pourra prendre des mesures jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est bien que M. Laurent Gbagbo et M. Henri Conan Bédié reconnaissent enfin l'élection d'octobre passé. Une fois M. Alassane Ouattara et son gouvernement mis en confiance, on pourra attendre que les victimes puissent bénéficier de leur réparation.
Merci beaucoup. Alors, M. Moïse Diallo, est-ce que vous avez aussi quelques inquiétudes sur la suite à donner à cette rencontre? Docteur Nguessan se montre prudent. L'êtes-vous aussi? Et pourquoi? Est-ce pour les mêmes raisons?
Moi, je dis franchement, si nous voulons arriver à la réconciliation, il faut qu'on arrête ces postures-là où on est dubitatif, où on se méfie. Il faut aller franchement dans cette démarche. C'est une démarche sincère dans laquelle, en tout cas, moi, j'ai vu le président Laurent Gbagbo venir vers son aîné Alassane Ouattara. Je pense que si on y croit tous, on va mettre effectivement les moyens pour que ce soit effectif. Maintenant, si on va avec prudence et qu'on commence à dire « il faut qu'on, yaka », non, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Moi, je souhaiterais effectivement que le frère Nguessan incite effectivement ses frères, ses partenaires à y aller de façon franche.
Oui, mais il estime que cela cela doit dépasser le cadre des images vues devant les caméras et qu'il faut aussi pour une vraie réconciliation penser au sort des victimes. Et je parlais tout à l'heure du président d'une des associations de victimes, Issiaka Diaby, qui a dit exactement que cette rencontre était un acte de défiance à l'égard des victimes. Donc au-delà de cette rencontre, il faut aussi intégrer ou prendre d'autres mesures afin que cette réconciliation soit complète.
Mais évidemment, madame, c'est un début. Nous ne sommes qu'au début. Deux hommes se rencontrent. Nous sommes là à analyser effectivement cette rencontre-là. Mais ça ne veut pas dire que la réconciliation est faite. C'est un processus. Nous commençons par quelque chose qui est déjà une image très forte. N'est-ce pas que c'est quelque chose qui est motivant pour tout le monde ? N'est-ce pas que c'est quelque chose qui était attendu de tous ? Maintenant que nous avons réalisé effectivement cette rencontre, maintenant que les images ont été fortes, que les images nous ont parlé, eh bien ça va inciter effectivement toute la population, toutes nos populations, à pouvoir effectivement aussi se serrer la main, se tendre la main, parler. Et c'est comme ça que nous allons arriver de façon progressive à cette réconciliation. La réconciliation n'est pas quelque chose qui sort comme ça ex nihilo. Ça n'arrive pas, c'est un processus dans lequel nous nous sommes engagés. Et je pense que les deux présidents, en tout cas, qui se sont rencontrés, étaient dans cette franchise-là.
Merci.
Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo est un homme qui revient changé. Et le président Alassane Ouattara, qui a exercé le pouvoir pendant tout ce temps aussi, est un homme aussi changé. Et c'est ce qui permet effectivement cette rencontre. Et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire, effectivement, est sensible à ce changement-là.
Merci.
Et donc, il n'y a pas de doute, les choses vont se passer comme ils souhaiteront que les choses se passent.
Donc, vous estimez que les choses vont,
qu'on va y arriver.
Vont se poursuivre dans le sens de la rencontre chaleureuse qu'on a vue mardi dernier. Alain Goury, est-ce qu'on n'a pas un peu surestimé les attentes ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une trop grande attente de cette rencontre ? Quand on écoute les acteurs politiques, c'est comme si après cela, tout va aller dans le meilleur de monde possible. On a même entendu une députée dire que Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, saluer le génie politique de ce dernier, qui est pour elle un homme de paix. Quand on écoute des réactions comme celle-là, on a l'impression que voilà, cette rencontre vient aujourd'hui tout arranger.
Effectivement, cette rencontre vient tout arranger. C'est les Ivoiriens qui gagnent. Le président Alassane a accepté de recevoir son jeune frère, le président Laurent Gbagbo. C'est une chance. Quand le président des victimes, boum, il ne faudrait pas qu'il aille vite en besogne. On ne peut pas aller à la réconciliation en ignorant les victimes. Donc, quand il dit que la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara, c'est se foudre
C'est un acte de défiance à l'égard des victimes, a-t-il dit.
On ne doit pas le dire. La réconciliation est un processus. Les deux belligérants se sont croisés, ils se sont rencontrés. Ils vont élargir cette rencontre à d'autres cadres du pays.
À d'autres acteurs politiques.
D'autres acteurs politiques, effectivement, tels que le président Henri Konabidi, qui est effectivement un maillon pour la réconciliation. Donc, effectivement, les victimes seront écoutées, les victimes seront dédommagées. Qu'ils prennent son mal en patience et allons vers la réconciliation. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il ne faudrait pas que les gens se disent que cette rencontre, c'est pour amuser la galerie. Les deux grands belligérants se sont rencontrés, estimant que le président Alassane Dramane Ouattara, comme le dit son président, est un génie politique. Il va pousser le bouchon très loin en libérant les prisonniers politiques, militaires.
Est-ce que vous êtes certain que la demande faite par Laurent Gbagbo, la liste remise au président Ouattara, que le président Ouattara libérera les personnes figurant sur cette liste comme l'a souhaité Laurent Gbagbo?
Oui, mais c'est ça la réconciliation. On ne peut pas parler de la réconciliation et garder les prisonniers en prison, des gens en prison. On ne peut pas parler de réconciliation sans libérer les prisonniers politiques. C'est essentiel pour la Côte d'Ivoire, libérer les prisonniers politiques. Et c'est pour cela que vous avez vu cette liste de 111, 110 personnes que le président Laurent Gbagbo a remis au président Ouattara. C'est pour aller véritablement à la réconciliation. Si demain le président Ouattara qui sait si bien le faire, il a déjà fait pour Simone Gbagbo, qui peut le faire, qui a la capacité de le faire. Et je sais que c'est un grand homme, il va le faire. Si demain il libère ses prisonniers, mais c'est véritablement la réconciliation qui est amorcée.
Merci.
Donc on attend.
Merci beaucoup.
Nous ne pouvons pas dire que c'est de l'heure.
Docteur Nguessan, à votre avis, hein, ce rapprochement fait plus ou plutôt moins les affaires de l'ancien président Henri Konan Bédier que l'ancien président Laurent Gbagbo avait rencontré à Daokro. Dans quelle position politique se trouve-t-il aujourd'hui après cette rencontre Gbagbo-Ouattara?
La posture actuelle du président Bédier?
Oui.
Bon, de toutes les façons, le président Bédier doit être pour quelque chose dans la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédier, quoi qu'on dise. Hein, il y a une classe politique.
Vous pensez qu'il a œuvré pour ce...
Oui. Le président Bédier est pour quelque chose, pas le seul d'ailleurs. Donc, on a une classe politique qui, au-delà des discours officiels, s'est manœuvrée à l'ombre la nuit, qui sait se parler la nuit. Donc, je pense que aujourd'hui, les militants des partis politiques avec qui je suis, on doit m'excuser. Mais aujourd'hui, il s'agit pour les trois de s'entendre pour nous présenter leurs excuses, pour avouer leur tort dans la Côte d'Ivoire qu'ils ont pu susciter. C'est de la haine que ces trois leaders ont pu créer dans le cœur de certains Ivoiriens et certaines populations qui vivaient en cohabitation pacifique, en cohésion sociale. Et puis des lustres, ces trois leaders politiques, par leurs éléments de langage, ont su fabriquer cette guerre, ont fait imploser la Côte d'Ivoire. Il est temps pour eux de reconnaître leur tort, de nous présenter leurs excuses et de se retirer de la vie politique nationale.
Pour vous aussi, cela participe, cet acte de pardon,
le public participe aussi
de la réconciliation, la vraie.
C'est ça, le pardon va jouer un grand rôle, qu'ils reconnaissent leur tort, demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire et se retirer de la vie politique nationale pour de nouveaux leaders, afin que nous ayons moins de passion, moins d'émotion, moins d'animosité sur la scène politique
ivoirienne. Mais qui doit prendre cette initiative, sachant que Laurent Gbagbo peut se prévaloir d'avoir été blanchi par la Cour pénale internationale? Qui doit prendre l'initiative de ce type de rencontre, de ce type de demande de pardon?
La Constitution donne ce pouvoir au président Alassane Ouattara, celui qui est le président des Ivoiriens, et nous avons été habitués depuis au leadership paternaliste. C'est à lui, qui est le premier des Ivoiriens, qui est le père des Ivoiriens, de convoquer ou alors de faire venir ces deux aînés pour que les trois puissent parler entre eux, reconnaître les erreurs des uns et des autres et ensemble nous demander pardon. Et surtout, susciter la modification, la réforme constitutionnelle dont le président Ouattara lui avait parlé avant la présidentielle passée, faire revenir la clause d'âge pour que le président Ouattara Gbagbo soit la retraite politique. Qu'une nouvelle génération de décideurs politiques advienne pour moins d'animosité en Côte d'Ivoire. C'est le prix de la réconciliation.
Monsieur Mouiz Diallo, dans la suite de ce que vient de dire le docteur Nguessan et aussi de Monsieur Goury qui disait oui, il est prévu une rencontre plus large avec d'autres acteurs politiques. Est-ce que dans ce cas-là, on ne risque pas d'assister encore à la formation de ce trio Gbagbo, Bédié, Ouattara qui a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire en 2010-2011? Monsieur Diallo?
Oui. Vous entendez?
Oui, allez-y.
Voilà. Je disais que ce trio est aujourd'hui important. Il faut que ce trio s'entende pour qu'on arrive à la réconciliation.
Demander pardon, par exemple, comme vient de le suggérer le docteur Nguessan?
Oui, mais ça, c'est des choses... Non, mais ça, ce sont des choses qui vont arriver plus tard. Ça, on peut l'envisager plus tard. Mais au jour d'aujourd'hui, pour que la réconciliation vraiment soit bien engagée et qu'elle aille même à son terme, je veux dire, jusqu'au point de satisfaction effectivement nationale, il faut effectivement que ces trois leaders quand même, pilotes, soient engagés dans la réconciliation. On ne peut pas aujourd'hui poser cette question. Il ne faut pas aller plus vite que la musique.
Excusez-moi, monsieur Diallo, là, on essaie de voir ce que peut être la Côte d'Ivoire, aller au-delà de l'après-rencontre. C'est de ça dont on parle.
L'après-rencontre, déjà, on posait la question de savoir, il faut effectivement libérer les prisonniers, il faut indemniser. Bien sûr que ça va arriver. Mais pour l'instant, nous avons vu deux hommes qui se sont rencontrés, mais il n'y a pas que cela. Il faut que le président Bédi et lui aussi soient associés effectivement à une rencontre. Et en ce moment-là, on verra que comment procéder pour qu'on puisse aussi indemniser aussi ceux qui se plaignent. Parce que, en fait, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République, doit répondre en même temps aux gars, doit répondre aux familles et des victimes, doit répondre à toute une situation. C'est lui qui, aujourd'hui, engage, conduit effectivement cette réconciliation.
Mais est-ce que, êtes-vous favorable à l'idée d'une demande publique de pardon par les trois hommes qui ont été au centre de la crise post-électorale 2010-2011, comme
bien
le sujet
sûr,
de Dr. Nguessant.
Il faudrait qu'effectivement, je pense que de toutes les manières, pendant tout ce temps, les 10 années qui sont passées, chacun a pu effectivement faire son mea culpa, son autocritique, et puis se dire, oui, on a aussi nos parts effectivement d'erreur, on a nos parts de responsabilité. Et donc, en ce moment-là, en toute responsabilité, quand ils vont se rencontrer, je pense qu'on va en arriver là. Il faut qu'il y ait des assises, il faut qu'il y ait, on va trouver le terme, mais il faut qu'il y ait effectivement des assises comme ça, du grand pardon organisé, pour qu'on se parle.
Merci, voilà. Monsieur Diallo. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre et conclure ce débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Tête à tête mardi entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. La rencontre a-t-elle tenu toutes ses promesses et quelle pourrait ou devrait être la prochaine étape dans le processus de rapprochement entre les deux leaders, mais aussi de réconciliation en Côte d'Ivoire? Nous en débattons ce soir avec Dr. Sylvain Nguessant, analyste politique, Moïse Diallo, conseiller spécial du parti au pouvoir RHDP ici à Paris, et Alain Goury, secrétaire national du CAP, c'est la cellule des agents du privé du FPI Ngor de Laurent Gbagbo. Alors, monsieur Goury, est-ce que ce qu'on envisage pour la suite de cette rencontre vous parle? Est-ce que vous imaginez une situation où les trois hommes viennent dans la perspective de l'accélération de cette réconciliation que les Ivoiriens souhaitent, dire nous sommes désolés de tout ce que nous avons fait au peuple ivoirien en 2010-2011?
Effectivement, cela est nécessaire. Ces trois grandes personnes de la vie politique ivoirienne ont besoin de se présenter devant les Ivoiriens pour leur demander pardon. Le fait que Laurent Gbagbo et M. Ouattara se sont croisés par humilité, c'est déjà un bon départ. C'est déjà un très bon départ pour la réconciliation. Demain, ils vont élargir la rencontre à Bédié. Mais c'est chose vraiment très intéressante et très, très importante. Donc, on doit le faire. Les trois Bédiens doivent s'associer pour venir demander pardon aux Ivoiriens. Et en ce qui concerne, comme le dit tout à l'heure mon prédécesseur, est-ce qu'ils doivent encore continuer la vie politique? Ça, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Celui qui est forclos par la loi, il s'assoit et il y a une génération qui est préparée. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Mais aujourd'hui, nous voulons aller à la réconciliation.
Donc, pour vous, la réconciliation aussi, peut-être au-delà de ces excuses, c'est que ces trois hommes s'engage à ne pas être candidat à la prochaine présidentielle, par exemple?
Non, ça c'est la loi, c'est ce que je dis. Si ces trois hommes, la loi leur permet d'être candidat, ils le veulent, il n'y a pas de problème. C'est la loi, il n'y a pas de problème.
Oui, il n'y a plus de limitation d'âge, donc... Donc
ils voient qu'ils ont encore la capacité de diriger, tant mieux. Mais dans tous les cas, depuis le premier jour qu'ils sont rentrés dans la politique, ils devaient savoir, ils savent qu'ils doivent préparer, la future génération qui doivent...
La relève.
Donc il n'y a pas de problème à cela. Mais ça dépendra de la loi.
Merci.
S'ils sont francs, ils vont s'asseoir.
Merci. Docteur Nguessan, on le dit, M. Goury vient de le dire, hein, que rien n'empêche éventuellement ces trois personnes, ces trois leaders politiques de se jeter encore dans la bataille, peut-être pour la prochaine présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, on pourrait encore envisager ce scénario et l'excluez-vous?
Vous savez, tant que les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo seront sur la scène politique et seront candidats, les animosités vont toujours demeurer. Il suffira qu'il y ait un enjeu électoral où un seul se présente pour que les deux autres se présentent et que les tendances radicales de leur formation politique occupent la rue pour que la plus mauvaise de Côte d'Ivoire puisse se faire connaître. Non. Le président de la République a l'initiative de la modification constitutionnelle, les députés ont l'initiative de la modification constitutionnelle. Je crois savoir qu'il y a un groupe parlementaire qui a déjà amorcé cette étude. Et ce groupe parlementaire compte soumettre cette étude avant la fin de l'année pour une réforme constitutionnelle visant à faire revenir la clause de limite d'âge dans les conditions de l'éligibilité à la présidence. Le président de la République lui-même, M. Ouattara, en avait parlé en octobre passé dans un média étranger. Il disait qu'après cette élection, il ferait revenir la clause de limite d'âge.
Il faudrait que cette... C'est qu'il pourrait donc automatiquement bloquer Laurent Gbagbo et Conan Bédié.
Et à la fin de Ouattara lui-même.
Oui.
Sauf que les trois soient à la retraite politique assez tôt, dès 2022, qu'ils sachent qu'ils ne seront pas candidats en 2025. Pour ne pas qu'en 2025, les nôtres viennent nous dire « je n'ai pas eu le temps de préparer un candidat ».
A priori, on ne sait pas si Alassane Ouattara ne doit pas ou pourrait pas se présenter en 2024.
Quand vous écoutez les éléments de langage du RHDP, on nous dit c'est le...
Puisque c'est le mandat zéro qui a commencé avec...
Voilà, donc pour éviter tout ça, il faudrait la réforme constitutionnelle où on dit clairement la limite d'âge c'est 70 ans ou 75 ans. Les trois sont forclos, on passe à une nouvelle génération.
Merci. Monsieur Diallo, est-ce que vraiment pour consolider cette réconciliation qui a commencé, dites-vous, avec la rencontre des deux hommes mardi dernier, il ne faudrait pas que ces trois personnalités se retirent carrément et qu'ils l'annoncent le plus tôt possible aux Ivoiriens?
Madame, je vais vous dire, sérieusement, ne soyons pas amnésiques. Nous avons tous entendu le président Alassane Ouattara, avant ces élections, les dernières élections, nous dire qu'il souhaitait que ce soit maintenant une nouvelle génération. Et vous vous souvenez vous-même que les opposants eux-mêmes étaient contre l'annonce du président Alassane Ouattara en disant « et ce n'est pas lui qui va imposer aux gens de se présenter ou de ne pas se présenter ». Parce que c'était un vœu qu'il avait formulé. Il avait demandé à ses frères qu'il fallait laisser la place à une nouvelle génération. Et tous étaient contre cette position du président Alassane Ouattara. Et l'homme n'a pas seulement annoncé cela, il est passé à l'acte puisque nous avions désigné Feu Amadou Gon-Koulibaly comme étant le candidat du RHDP. Donc ça veut dire que le président Alassane Ouattara, en réalité, l'avait déjà fait. Maintenant, si c'est la volonté, effectivement, des membres de l'opposition, des leaders de l'opposition...
Oui, mais excusez-moi, Monsieur Diallo, en deux phrases, vraiment. Si on parle aujourd'hui aux Ivoiriens de réconciliation, alors qu'ils savent que les trois personnalités qui sont responsables, en quelque sorte, de la crise de 2010-2011 restent dans les coulisses et pourraient encore se présenter à la prochaine présidentielle, est-ce que ça va être vraiment convaincant et rassurant?
Je viens de vous dire, madame, que le président Alassane Ouattara était déjà parti. Nous avions nommé Amadou Gon-Koulibaly. Donc ça veut dire que pour lui, il n'y a aucun problème à cela. C'est maintenant à demander là une question à poser au président Bédié, une question à poser au président Gbagbo Laurent, de savoir si eux sont prêts pour donner le nom de leur dauphin.
Merci beaucoup.
Nous l'avions déjà fait.
Merci beaucoup, Moïse Diallo, conseiller spécial de la délégation RHDP à Paris, Alain Goury, secrétaire national du CAP FP INGOR, et au docteur Sylvain Nguessan, analyste politique, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.